Alléluia.
Nous avons eu un très grand miracle. On a habitué au miracle, c'est vrai. Nous avons eu un très grand miracle cette semaine-ci. Une dame que Edith ici présente a amenée a accouché après une grossesse de 14 mois. Edith va prendre une respiration pour faire le témoignage de dimanche. Parce qu'il faut vraiment faire une respiration pour faire le dimanche. Et j'espère que cette femme-là, ou son frère qui était là, vont aussi témoigner dimanche. C'est un fait exceptionnel. On va en reparler. Et nous avons eu la grâce que comme elle est bilingue, elle a sorti son témoignage en français et en anglais. C'est disponible sur Internet. Un journal qui siège aux États-Unis a décidé d'en faire la une les prochains jours. Applaudissez au moins pour le journal. Moi, je lui donne ma version, même si on va avoir la version complète dimanche. Ma version est très simple. Je vois cette femme ici dimanche, elle est créative par là. Je ne sais pas qui c'est. Au moment où je la touche, je lui dis, tu vas accoucher dans 3 jours. Et je passe. Quand je la reçois, c'est là où je me rends compte que c'est un cas qui m'a été annoncé d'une femme qui est enceinte depuis 14 mois. Bon. Et je leur dis, vous n'allez pas à l'hôpital. Pour l'instant, aucun médecin ne doit vous toucher. Parce que quand ils ont fait les examens pour une grossesse assez bizarre, qui apparaissait et disparaissait. Elle est réapparue récemment. On allait faire les examens. L'échographie me montrait qu'une boule noire, une masse noire, qui n'était pas identifiable. Et les médecins disent qu'ils veulent opérer quoi. Quand elle part, après que je l'ai traité, elle passe une bonne nuit. Le soir, le Seigneur me donne le rapport, il me dit, dans le ventre, là, il n'y a pas de bébé. Il y a 2 serpents et 2 souris. Parce que quand j'ai posé la main, j'ai senti un animal se déplacer. D'abord, le feu, c'est un serpent qui se déplace. Ce que j'ai posé la main, c'est le feu qui sort. Naturellement, bien sûr. Lui, il s'est déplacé parce qu'il ne veut pas rester là où il y a le feu. Alors, je demande à Edith, justement, ramène-moi les gens là en usant au bureau, lundi. Parce que le lundi, moi, je ne reçois pas. Je reçois et je dis, c'est la norme. Ramène-les-moi au bureau, elle n'a pas de difficulté à les convaincre, ils reviennent. La femme vient, très contente, elle a bien dormi, elle a retrouvé la bonne humeur. Mais c'était seulement le grand sarclage. Elle n'avait pas encore traité le propre, ce problème central. Et c'est là que je lui dis, que bon, en fait, dans le ventre-là, il n'y a pas de bébé. Il y a 2 serpents, 2 souris, le bébé en captivité. Je fais donc ce que le Seigneur m'a indiqué. Il m'a dit, tu tues les serpents, tu tues les souris, et tu ramènes le bébé. Dès qu'on finit de faire le travail là, il dit que tout va bien, là, il n'y a plus de problème. Et il me contacte à 20h, que, hé, contraction. Il dit que non, il n'y a pas de problème, allez à l'hôpital. Là, maintenant, il dit, allez à l'hôpital. 3h du matin, l'enfant met une fille, 3 kilos, 3 ans.
Je dis les miracles, je dis que tout est facile.
J'apprends 2 choses parmi tant de choses. Où pouvez-vous asseoir? J'apprends que la famille est contente parce que c'est le premier petit-fils dans la famille là. J'apprends que, après, la femme de grand-mère, là, elle a châtaigne. C'est patience, non, patience, non, mais péchée. Péchée dit après que, mais, elle voyait les nains, les gens petits de taille, les démons petits de taille. Je dis que, moi, on avait vendu l'enfant, c'est eux qui rassuraient là, les corps, qu'est-ce que tu crois? Elle voyait étant éveillé. Et vous savez, quand vous êtes sous l'onction, c'est-à-dire que quand c'est l'esprit saint qui vous tient, moi, je ne me rappelais pas. C'est après qu'elle a dit que, mais, l'homme de Dieu a dit que je vais accoucher après 3 jours. Je me rappelle que oui, au moins je l'ai touché, c'est ce que j'ai déclaré. Effectivement, là, le Seigneur a marqué les super bonus. La foi a augmenté dans la famille, dans la grande puissance, c'est pas juste. C'est monté comme ça, en fait. Tout le monde sait que Jésus-Christ est vivant là-bas maintenant. C'est Yeltos, lui-même. On ne raconte pas ça. Donc, je voulais vous annoncer cette nouvelle. Et j'ai autre chose à vous dire. Je ne dis pas comme les blagues, mais je suis très sérieux. Le Seigneur a ouvert la saison des grâces. Il va avoir des miracles dans ce ministère comme ça. Même pas que toi, on revient souvent quand on sort. Ça va tomber de tous les côtés. Parce que ce que Dieu a décidé de mettre dans ce ministère, je vous dis le secret. Comme vous avez dit, mais c'est juste un gros secret. C'est juste qu'ils viennent couillant le dimanche comme ça, il faut que l'on aille gérer le secret dans la branche. Ce qui va se passer dans ce ministère, c'est qu'il y a certains hommes dans ce ministère qui vont s'exprimer, qui ne sont même pas répertoriés dans la Bible. Oui, à ce point. Je ne dis pas plus que ça. Vous devez savoir que l'apôtre Paul a reçu une révélation. L'Esprit Saint lui a donné 9 dons. Ça n'est pas dit. Dieu m'a déjà dit ça depuis longtemps. Que même. Tant qu'il disait qu'il n'y a que 9 dons, c'est donc moi, Dieu, il me limite. Il peut compter les dons qui peuvent être sur quelqu'un. C'est 9 dons spirituels qui ont été révélés à l'apôtre Paul. Ce n'est pas 9 dons spirituels qui existent pour Jésus-Christ. D'accord? Il faut que vous restiez soit bien lâche, bien ouvert à l'impossible. Vous savez, quand on entre dans cet esprit, on comprend. On commence à réaliser que le surnaturel est normal. Parole, ça va? Il faut souvent nous amener les cas compliqués comme celui-là. Quand je dis qu'amener les cas compliqués, vous ne comprenez pas. Oh. Je cherchais le repos. Vous savez, le genre de grâce matinée que seul le corps te demande là. Je me lève, je travaille, je veux dormir. Coudon m'appelle. Je téléphone si je connais le numéro. Effectivement, quand elle me dit ça, moi je vois une personne morte qu'on est en train de m'amener. Je parle de ce matin. Et quand je les vois sortir du taxi, je vois que la fille bouge encore et dit, ah, dis donc, je croyais que c'était plus compliqué. Sa mère est venue avec une bouteille d'eau. J'ai pris directement la bouteille, j'ai béni, j'ai dit que donne à ta fille qu'elle boit. Dès qu'elle a pris un but. Première réaction. Je dis qu'elle est pitié, moi je vous attends ici. Moi j'ai compris ce qui se passe. En fait, ils avaient déjà amené. Et pendant que j'étais sur le trajet, on était en train de dire que de toute façon tu t'embrouilles pour rien. Si t'embrouilles, tu vas mourir. Elle ne tenait plus debout, elle n'est plus rien. Parce qu'elle est dit, elle ne mange pas depuis longtemps, elle ne consomme que des fruits, négligeons. Bon. Est-ce que c'est moi qui travaille? Si c'est moi un instrument, elle dit non, on a commencé le massacre. Moi, tout le monde m'a dit d'abord. Le supérieur de Napalm, c'est quoi? C'est la bombe. Bombe atomique, quoi. On a brûlé tout quand que tout brûlait avec une bombe. On a fini de brûler quelque part, que comme du cas ici, on a ramené son esprit. Quand nous avons fini à ramener l'esprit, nous avons enlevé les masques, tout ça. J'ai dit nous pourquoi, c'est l'esprit, c'est même moi et les anges, tout ça. Donc on était nombreux à travailler. Ça s'est passé à grande vitesse. On ne vous montre rien à la télé. Si on vous montrait ce qu'on fait dans le monde spirituel, vous rendrez compte que la télé est au ralenti. Tiens, rien là-bas. On finit. Il dit qu'il y a une vieille là, enlevée là. Il y a les grindilles de bâton là, enlevées, les chaînes enlevées. Voile enlevé, masque enlevé. On n'a pas fait 5 minutes, ça n'a pas changé, non. Au bout de 10 minutes, déjà la fille a laissé lever quelqu'un qui me disait, bah, ta main me regarde comme ça, c'est tiens d'un téléblague ou quoi. Mais que lève-toi et viens vers moi. Et c'est le lever. Et elle a commencé à marcher. En vérité, je vous le dis, vous aurez dans ce ministère, s'il vous plaît, tous les miracles que vous avez vus dans la Bible, plus tout ce qui n'est répertorié nulle part dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, place à l'enseignement. C'est que j'ai le cœur tellement joyeux que je ne pouvais pas commencer à vous transmettre ma joie. Ouais. Pasteur, c'est un coué. Ton visage est beau, hein? Non, je parlais de beauté spirituelle. Laisse-le d'abord tranquille. Hein? Vous essayez de François. Tu es tout rayonnant le soir, comme ça, c'est bien. La gendarmerie va bien. Hein? Tu commences à briller. Ah, j'ai déjà compris. C'est bien. Nous avons un enseignement qui va s'achever dimanche, que nous commençons aujourd'hui, dont le thème c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. On va dire, est-ce que les gens auront tous les enseignements sur plusieurs mois dès la semaine prochaine? Peut-être. D'accord. Parce que là, ça va être bon. Comité d'organisation. Tant que la décoration est entre le 9 et le 21, donc le mois prochain, on va revenir dessus. Je vous ai dit que vous allez caler là-bas. Vous êtes des organisateurs de fête. Comme ça, quand la date du mariage sera aussi adaptée, vous allez aussi caler là-bas pour organiser ça. C'est ça. Hein? Tu penses à ta cousine. Il y a ta cousine qui était là, après là, bloquée là-bas, cadenassée et scellée. Alors, je vous ai dit que la crainte de l'éternel est la thématique que nous traitons cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de l'éternel et en fait, dimanche de la semaine qui, nous allons achever l'enseignement sous l'angle pointu que représente la crainte de l'éternel et ses implications sur notre vie personnelle. Ça sera dimanche. Donc, nous commençons par la crainte de l'éternel. En fait, quand on regarde l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit souvent l'ordre de craindre Dieu ou de craindre l'éternel. C'est important de le savoir. Il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie, parce que c'est un commandement pour nous croyants. Car ce n'est pas ce que nous croyons généralement comme perfection de Dieu qu'il faut intégrer. Mais il faut plutôt voir les éléments qui sont liés à cette compréhension de la crainte. Parce qu'à travers le Seigneur, nous pouvons être délivrés de l'esclavage, de toute crainte qui sort de la normale. Et toutes celles qui viennent, n'est pas des influences sataniques. Regardons donc la crainte de l'éternel et sa signification. Craindre l'éternel est un commandement assez vaste, quand on veut regarder. Vraiment un commandement assez vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. Premièrement, craindre l'éternel en ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que Il est saint. On reconnaît sa sainteté et sa justice. Parce que ça va en paix. La sainteté de Dieu et sa justice. Et voir aussi son amour et sa miséricorde. Je vous ai montré deux tableaux. La sainteté et la justice d'un côté, l'amour et la miséricorde de l'autre. C'est ça craindre l'éternel dans la première intellection, la première compréhension, la première interprétation, la première perception que l'on se sent faire. Donc, c'est savoir comprendre parfaitement qui il est, c'est-à-dire Dieu. Prenez Proverbe 2.7, on évolue. Proverbe 2.7. Donc, une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint. Et que, en tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Proverbe 2.5, vous pouvez lire ça.
Proverbe 2, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen.
Amen. Donc il y a cette dimension de compréhension. Comprendre l'amour, la miséricorde. Comprendre la sainteté et la justice. C'est déjà la première compréhension qu'on peut se faire de la crainte de Dieu. Donc, deuxième compréhension, craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Vous savez, quand on parle de ça, notez Philippiens 2.12. Quand on parle de ça, il y a une image qui me vient à l'esprit. Philippiens 2.12. L'image qui me vient à l'esprit, c'est que nous les hommes, nous accordons beaucoup de considération aux hommes puissants. Or, les hommes puissants qui ne sont que des créatures, si on est capable de leur accorder une telle considération, plus forte raison aux créatures, quelle considération est-ce qu'on accorde?
Vous comprenez quand même, quand on comprend, quand on dit qu'on doit avoir un respect pour la révérence, avoir de la révérence, la considération pour sa grande gloire, pour sa sainteté. Les hommes du temps que vous respectez, là, ils sont même saints. Les chances pour qu'ils soient saints sont d'une sur un milliard. Mais vous les respectez. Oh, le puissant, vous les appelez un puissant. Oh, le puissant désir, oh, le puissant gouverneur, le puissant. Puissant de quoi? Comparé à qui? Vous pouvez me dire avant que Dieu que retourne sur toi en disant que blasphème. Évitez d'appeler les hommes comme ça pour le puissant. C'est pas correct. Non, il faut envers Dieu le respect, la révérence, honorer la grande gloire qui est la sienne, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Donc, on peut citer à titre d'exemple l'événement qui a lieu dans le désert du Sinaï. Lorsque les Israélites viennent, ils virent Dieu se manifester. Parce que c'est quand même un cas très intéressant. Il y a eu des tonnerres, des éclairs, une fumée, une nuit épaisse sur la montagne, des grondements, le son de la trompette retentit fortement. Le texte ajoute d'ailleurs que tout le peuple fut saisi d'épouvante. Lisons un peu Exode 19, le verset 16. Exode 19, le verset 16.
Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le champ fut saisi d'épouvante. Amen.
Amen. Tout ce que les hommes ont entendu là, ça ne venait pas des hommes. Ça venait de Dieu. Ils ont vraiment eu peur. Au point qu'ils ont supplié Moïse de lui parler. Je vais leur raconter ça. Quand Dieu a parlé comme ça, il s'est manifesté comme ça. Le peuple d'Israël a dit que non. Va poser un récit bien de Dieu. Et tu dois avec ça parce qu'il parle, tout son tremble de la tête aux pieds. Le sol tremble vraiment. Nous, on ne peut pas poser dans les telles conditions. Il nous fait peur. C'est ce qui s'est passé, effectivement. À tes souhaits. Moi, j'aime les déterminements. Ça permet de bénir les gens. Quand le peuple supplie à Moïse, n'est-ce pas, de lui parler, au lieu que ce soit Dieu qui le fasse. Donc vous lisez Exode 20, le verset 18 à 19, qui est écrit ça. Deutéronome 5, le verset 22 à 27. J'ai envie que vous lisiez ça. Exode 20, le verset 18 à 19, Deutéronome 5, le verset 22 à 25.
Exode 20, verset 18 à 19. Tout le peuple a entendu les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne se manger.
Oui.
À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse.
J'ai dit Exode 20, le verset 18 à 19, et ensuite Deutéronome 5, le verset 22 à 27.
Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous voyons. Amen.
Amen. Donc, de même, le psalmiste, ceux qui ont écrit les psaumes, c'est David qui les a écrits, dans son commentaire sur le Dieu créateur, déclare que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Le psaume 33, le verset 8 à 9, le dit clairement. Psaume 33, le verset 8 à 9. Troisième compréhension de la crainte de Dieu. La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en lui seul pour son salut. En tout cas, la crainte de Dieu, il doit avoir confiance en Dieu. En Dieu et en Dieu seul. Nous voyons par exemple qu'après avoir franchi la mer Rouge, à pied sec, après avoir assisté à l'anéantissement de l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Exode 14, verset 31 le dit. Moi, ce qui est curieux dans le peuple d'Israël, qui est curieux aussi dans certains ministères, c'est que même après les miracles, les gens rentrent encore dans l'incrédulité. Le peuple de la Pierre montré incrédule a vu d'abord les 10 plaies d'Égypte. C'est quoi qu'on recommence au début? les 10 plaies, ils ont vu. Les 10 plaies sont finies. Ils ont vu comment, avec un simple bâton, Moïse a ouvert la mer, ils ont traversé. Ils ont vu comment la mer a englouti l'armée du tout puissant pharaon de l'époque. Après ça, ils ont dit que, ah, dis donc. Ils ont vu comment en marchant en journée, ils étaient protégés du soleil. Mais c'est quelque chose, je ne peux pas laisser la terre là, mais ça me traumatise quand j'y pense. Ils ont vu tout ça. Vous marchez dans le désert, le soleil ne vous chauffe pas, parce qu'il y a une espèce de brume qui est au-dessus de vous, qui vous protège. En fait, la température est douce. Là où vous êtes, partout ça chauffe, mais là où vous êtes. Vous avez le climatiseur au désert, en plein jour. La nuit, vous avez une torche, vous ne savez pas comment la lumière là est. Mais vous êtes dans la lumière. On finit, vous dites que le Dieu là vraiment, allons faire les trucs avec le bouton et l'or. Chaque fois que je passe à cet endroit-là, je dis que vraiment, hein, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez l'être humain quand même. Je ne comprends pas ça. À ce point-là, ils ont vécu des démonstrations de puissance hors échelle. Parce que les 10 plaies d'Égypte, c'est un précédent. Le fait qu'on ait ouvert la mer, que l'Esprit de Dieu a ouvert la mer par le bâton de Moïse, c'est un précédent. Le fait qu'ils aient marché pendant des jours, des semaines, étant encadrés par l'Esprit Saint visiblement, c'est un précédent. Dans la gloire de Dieu était permanente. C'est un précédent. La manne est tombée du ciel, c'est un autre précédent. On leur a envoyé les oiseaux. Comment on appelle les oiseaux là? Quoi? Les cailles. Comme c'est la viande que vous voulez, les oiseaux sont venus s'offrir. C'est un précédent, même jusque-là. À l'époque, là, il y avait dans l'ombre les disciples de Thomas. Non, mais Thomas vient bien après, quoi. Des milliers d'années après, mais vraiment, il y avait dans ses ancêtres très fonctionnels là-bas. C'est un commentaire que je fais comme ça pour quand même attirer l'attention sur le fait. Vraiment, je ne veux pas être dit ça pour déranger, mais on voit ça beaucoup chez les femmes, dans la marche avec Dieu. Beaucoup de femmes ont ce problème. Elles trouvent facilement la route qui mène à Dieu. Mais elles oublient très vite ce que Dieu a fait pour elles. Mais ça est bizarre. C'est que ce regard ponctuel chez Dieu, il est ponctuel, il est temporel. Donc, ça ne dure pas longtemps. Après ça, c'est juste que Dieu s'efface. Mais quand un homme vient faire ça, il double la femme. Lui, alors, c'est plus grave. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Par rapport à la crainte de Dieu, bon, je passe seulement par là. Exode 14, verset 31, en fait état. De même, le salut appelle tous ceux qui craignent Dieu à se confier en l'Éternel. Car il est leur secours et leur bouclier. Le psaume 115, le verset 11 le dit. Le psaume 115, verset 11. Autrement dit, la crainte de l'Éternel suscite chez le croyant espoir et confiance en Dieu. Parce que quand on dit crainte, les gens voient la peur de Dieu. Non, c'est pas ça. Il y a des variantes de la crainte de Dieu. Il y a dedans espoir et confiance. J'en profite pour te dire qu'il faut changer de sonnerie. L'autre là, c'est devenu mal de tête. Donc, une sonnerie barbare comme ça, ça peut donner l'espace à des ennemis qui ne pouvaient pas passer par là. Mais dès que la crainte de l'Éternel suscite chez le croyant l'espoir et la foi en Dieu, il n'est donc pas surprenant que de tels hommes soient sauvés. Lisez le psaume 85, le verset 10. Et qu'ils reçoivent le pardon au nom de son amour et de sa miséricorde. Je vous donne tous les passages par rapport à cette idée. Psaume 85, verset 10. Luc 1, verset 50. Psaume 85, verset 10. Luc 1, verset 50. Psaume 103, le verset 11. Psaume 85, verset 10. Luc 1, 50. Psaume 103, verset 11. Et le psaume 130, le verset 4.
Psaume 85 au verset 10. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix sont grâce. Amen.
Tu viens de lire quoi? Somme 85, le verset 10. C'est sûr que c'est ça que tu as lu.
Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Amen.
Parce que quand on vous dit de lire quelque chose, c'est que c'est ce qui est là. Donc, le salut et la gloire appartiennent à ceux qui craignent Dieu. C'est important de savoir cela. Lorsque on parle de l'amour et de la miséricorde de Dieu, le psaume 103, le verset 11, et Luc 1, verset 50, le confirme, ainsi que le psaume 130, le verset 4. Il met ces trois passages. Je vous dis quelque chose en passant. C'est très important pour vous en rendre compte. Avec Dieu, ce qui compte, c'est la connaissance. Même en matière de négociation avec Dieu, vous ne pouvez pas attendre, ma fille, je vais dire quelque chose. Pour négocier avec Dieu, il faut connaître la parole. Vous comprenez ce que je vous dis? Si tu ne connais pas la parole, tu n'as pas d'argument face à lui. La seule façon de réussir une négociation pointée à Dieu, c'est d'utiliser ta propre parole contre lui. Mais ça, il faut être vraiment correct pour engager ce niveau-là. Parce que tu n'es pas correct. Tu ne peux pas négocier, tu vas dire que ça va échouer. Or, si tu as une bonne connaissance de la parole, tu peux lui dire que papa, prends ta parole, dis que ça applique à l'autre. Quel est le stade dans la relation à Dieu? Quel est le stade? Et c'est dans la connaissance de la parole, donc de Dieu lui-même, que vous pouvez, on va dire quoi? L'amener à changer d'avis sur certains sujets. Quand je vous donne des passages bibliques, il faut les connaître. Parce que quand vous entrez dans la prière, à un certain niveau de la prière, c'est ça qui vous fait d'argument. Ce que tu as dit dans ta parole, c'est une chose. Que ce soit valable, que cela s'accomplisse, etc. Et tu ne veux pas faire les gens négociations et étant sales. Il faut que toi tu sois en bonne position. Si tu n'es pas en position de force, tu ne peux pas négocier. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Je vous donne les astuces. Vas-y.
Luc 1 au verset 50, c'est écrit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Amen.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Dieu pardonne seulement à ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu, et tu dis qu'il est miséricordieux, erreur. Là, c'est mal barré. Tu ne le craignes pas. Tu n'as aucune considération pour lui. Tu dis un cas, et puis quoi? Tu regardes ton cœur, tous les hommes savaient, ils faisaient attention à ce qu'ils ont dans leur cœur. Dieu voit d'abord ça. La parole dit que c'est ça qui sonde les cœurs et les reins. Tu vas venir lui dire n'importe quoi, qu'il voit le fond de ta pensée. Quand on a enseigné la prière efficace ici, n'est-ce pas qu'on vous a dit que l'un des critères pour qu'une prière soit efficace, c'est qu'il faut qu'elle soit sincère. Est-ce que ta prière peut être efficace si ta pensée est contraire à ce que tu déclares? Dieu analyse tout ça. Il peut lâcher prise facilement quand il regarde la sincérité dans ton cœur avec ce que tu fais. Il peut te donner des bonus insoupçonnables juste parce qu'il voit le cœur avec lequel tu fais les choses. Par exemple, aujourd'hui, vous vouliez qu'il enseigne, ou alors que vous n'avez pas le cœur pour l'enseignement. Voilà les exemples, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas venir enseigner dans un environnement de respect. Mais tout ça ne fonctionne pas dans la respect. Bien, il faut toujours vous rappeler qui enseigne ici. Ah, c'est l'envoyé qui enseigne. L'envoyé. Ok, c'est lui que vous voyez. Mais regardez bien. Quand on arrive à un certain niveau, celui qui a l'écoute se rend compte que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et vous ne pouvez pas demander à l'Esprit de Dieu de travailler là où toujours autre chose. Mon, à moi aussi. Je vous donne des clés pour qu'elles vous servent dans la relation à Dieu et que vous soyez plus performant. Que dit le psaume 130, verset 4?
Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. Amen.
Amen. Bien. La quatrième intellection, la quatrième interprétation, la quatrième perception que l'on pourrait se faire de la crainte de Dieu est que l'on signifie. Elle signifie que l'on reconnaît qu'il est un Dieu qui manifeste sa colère à l'égard du péché. et a le pouvoir de punir ceux qui transgressent les lois de la justice, de sa justice, mon Dieu, dans le temps et dans l'éternité. On craint Dieu aussi à cause de ça. On sait qu'il peut se mettre vraiment en colère face au péché et il punit ceux qui transgressent sa loi. Et là, c'est ce qui correspond à votre compréhension quotidienne de craindre Dieu, c'est-à-dire avoir peur de lui. Alors il vaut mieux avoir peur. Il est écrit dans la parole que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. La même parole dit que si l'ennemi t'attaque, Dieu peut te défendre. Si Dieu t'attaque, qui peut te défendre? Il vaut mieux ne pas l'avoir comme ennemi. Si tu l'as comme ennemi, il vaut mieux pour toi que tu sois profondément ignorant que c'est lui en face. Parce qu'il peut encore regarder que, comme tu es ignorant, mais en même temps, comme tu le crains, tu te rends compte que tu ne fais pas, il laisse d'abord. Il te donne les opportunités pour te rendre compte de ton erreur. Mais si, dans ton cœur, tu ne le cherches pas, dans tes actes, tu ne dis rien, tu ne le cherches pas, tu es vraiment en train de transgresser avec joie. Et chaque fois, tu dis, et puis quoi? Ah ah, d'accord, tu vas le trouver. Parce que certaines personnes disent des choses que Dieu ne comprend pas, que Dieu cherche d'abord. J'ai observé, vraiment, ce n'est pas une grande expérience, peut-être. Mais Dieu cherche d'abord à racheter le croyant. Et d'abord ça. Il présume, il parle de ce principe, tu ne sais pas. Donc il s'arrange d'abord à te donner la bonne information pour que tu aies la grâce de t'arrêter pour te dire que mais je suis en train d'aller où? Je suis en train de faire quoi? Je regarde quoi? Etc. Et il ne va essayer pas une fois, il va essayer plusieurs fois. Je tente toujours au pluriel de te sauver. Tu n'essaies pas une seule fois. J'étais chez un pasteur intelligent, un grand rosicrucien qui se cache dans les histoires de naturopathe. Il se permet de dire que tout ce qu'il connaît, je sais qu'il est guéri. Je l'ai corrigé instantanément. C'est inadmissible. Je dis que mais Dieu est miséricordieux. D'ailleurs, dit que Dieu est guéri, que Dieu est en fait, c'est Dieu-là qui va te manger. Donc, l'amour de Dieu, ça a balayé ça. Ta miséricorde. Ça me la preuve même qu'il est miséricordieux. Regarde, tout le temps qu'il laisse à l'homme de se racheter. Toutes les opportunités qu'il donne à l'homme de se racheter. Toi qui viens de dire ici à la télévision que Dieu, tout ce qu'il connaît, un seul, un Dieu qui se ment. Parce que lui, il dit que les chrétiens sont des malades mentaux. Et un Dieu seulement, hein, tout ce qu'il sait faire, quand on lit ta parole, c'est faire la guerre. Et que le grand maître est là. Chaque fois que vous allez définir Dieu en le mettant dans un couloir, vous êtes en train de perdre la bonne définition. J'ai pris. Si tu dis Dieu est vert, donc tu trouves que la seule couleur que Dieu a, c'est le vert. Si tu dis Dieu est cylindrique, donc tu trouves que la seule forme que Dieu a, c'est cylindrique. Si tu dis que non, Dieu est cylindrique, donc la seule forme. La définition la plus parfaite de Dieu, c'est Dieu est. Boum. Ne va pas le localiser quelque part. Vous comprenez ce que vous dites? Quand vous trouvez un esprit tordu qui commence à définir Dieu, à le qualifier avec sa petite intelligence, dites-lui que c'est toi. Je t'ordonne de la fermer. Parce que ton ignorance commence à atteindre un niveau chronique. C'est toi. Tu ne peux pas, tu n'as pas qualifié pour définir Dieu. La seule bonne définition, c'est qu'il est. Il se présente en disant, je suis celui qui suis. Je suis. Parce que tu ne peux pas le limiter, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est transcendant, il est au-delà du temps, au-delà de la création. Vous allez les chicoter avec la parole ici dehors. Et ça a même commencé, parce que cette fois, j'étais malade, je reste gris dans mon coin. Quand un de mes enfants vient me raconter que, mais, papa, j'ai prêché de 9h à 16h, personne n'en fait. Je dis que là, c'est en train de venir. Comme un autre me disait que, ils me disent que mon racine m'a souvent contaminé, je parle comme ça, je dis que, mais c'est ça même. Donc, ayez le confort de revendiquer votre appartenance à Dieu. Et de revendiquer, c'est comme ça que vous allez grandir. Les onctions vont monter en flèche par là. On a dit la semaine dernière que vous êtes des ambassadeurs. Non? L'ambassadeur, c'est que, on dit les choses contre son royaume, il ne dit rien. Tu le sens, monsieur, il défend les intérêts de son royaume. Donc, je ne disais pas comme ça au passage, c'est une parenthèse, je la referme. Vous devez comprendre ces choses-là. Dieu punit ceux qui transgressent la justice dans le temps et dans l'éternité. Le psaume 76, le verset 7 à 8, le dit clairement. Il y a quelque chose qui est intéressant. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu peur et ont essayé de se cacher loin de sa présence, loin de la présence de Dieu. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu subitement. Quand ils sentent que Dieu s'approche, ils s'en vont se cacher. Dieu les voit bien sûr et demande où vous êtes-vous. Adam répond que nous sommes cachés. Parce qu'on a réalisé que nous, parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Cette référence, vous pouvez la lire dans la Genèse 3, le verset 8 à 10. Je vous ai dit ici, en tant que berger, que quand vous avez réalisé que vous avez péché, empressez-vous de demander pardon sincèrement. Et repentez-vous sincèrement et battez-vous pour avoir une vraie conversion. Le reflet qu'Adam et Ève ont eu, d'un point de vue de la marche avec Dieu, est très dangereux. Ça coûte très cher. Mieux tu viens vite. Peut-être qu'on va te talocher, mais tu es venu. Au lieu de penser que tu vas fuir, tu vas te cacher où? C'est une question que les hommes ne se posent pas souvent. Tu vas te cacher où? Celui qui vous a enseigné, quand vous êtes dans l'adversité, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Dieu est en toi, tu peux te cacher, tu te caches de qui? Non, question technique. Tu te caches de qui? Il est là, en toi. Mieux, tu vas te mettre à genoux. Tu te mets, va te mettre à plat ventre. J'ai des enfants qui ont des expressions. Il y a un étudiant qui m'a fait rire. Il voulait me dire qu'il est foiré, il dit que le grand frère, je suis à plat ventre et tout, tu me vois. Donc, si tu sens que ton péché est exigeant, que même à genoux, Dieu ne va pas comprendre. Si tu es mis à plat ventre comme David faisait, front au sol, bien à plat ventre, tu mets la cendre, puis toi, tu commences à pleurer dans le sol avec toi. Et le père, pardon, ne frappe pas. C'est ça qui est important de comprendre, oui, ma fille. Oui, il y a une question.
Bonsoir.
Bonsoir.
En voyant, je parlais de Jésus-Christ avec un papa à moi. Et puis j'ai réussi à le convaincre, là, à la fin, il m'a jeté une question. Il est tout simplement dit, qui es-tu pour questionner Dieu? Mais sa question, je trouvais que je n'avais pas d'argument pour questionner ce que je devais lui dire. Tu me dis, comme tu dis que Dieu est miséricorde et qu'il a créé Satan, il a rejeté Satan sur la terre parce que Satan était pour la gloire au ciel. Si vraiment il est miséricorde comme tu le dis, pourquoi n'a-t-il pas pris question de façon à l'empêcher qu'Adam et Ève puissent pécher pour que tout le monde aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans un méchant.
Bien. Le problème de cette question est un problème d'abord d'ignorance de la chronologie des événements. Dieu a créé Satan, a créé Lucifer. Lucifer au départ n'était pas mauvais. C'était l'ange de lumière. Lucifer était couvert de pierres précieuses. Il avait le commandement. Il était un grand chanteur. Il avait la joie d'être le plus beau. C'est l'orgueil qui a transformé Lucifer. Au bout d'un certain temps, à force de commander, de voir qu'il est le plus beau, etc. Dieu n'a pas créé Lucifer méchant. Il était bon. Il était bien. Il était obéissant. Mais il s'est rempli d'orgueil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Lucifer est le tout premier à avoir organisé un coup d'État. Il est arrivé ici avant. Et pour vous dire même la chose, parce que ce n'est pas biblique, moi je suis entièrement révélé. Quand il arrive ici après avoir organisé un coup d'État et tout le reste, on les a dit sur les terres, parmi lesquelles la planète Terre. Parce qu'en fait, quand on dit sur les terres, ce n'est pas juste la Terre, Jupiter et tout le reste, Mars, tout ça. Vous avez les anges déchus sur toutes ces planètes-là. Comme il n'avait pas de vêtements, il est d'abord allé sous la terre. Il n'a pas de contact avec le sang. Il est resté sous terre longtemps. C'est quand l'homme est arrivé qu'il a dit que chouette, il y a les habits ici. Mais oui, j'ai encore un élément de contact. Dis que pourquoi Dieu n'a pas éteint directement le système. Ça ramène d'abord une problématique qu'on a soulevée la dimanche dernier. On vous a dit que si Dieu n'était pas patient et miséricordieux, il aurait éteint directement les traits humains. Mais bon, comme ils sont défaillants comme ça, mais on s'arrête maintenant. C'est la même raison pour laquelle il n'a pas anéanti Satan, qui est juste une fabrique, une créature. Parce que Dieu a toujours un esprit que je vais lui donner l'opportunité de se racheter. Or, quand il a voulu donner l'opportunité à Lucifer de se racheter, Lucifer est devenu plus mauvais.
de plus en plus mauvais, de plus en plus déterminé même dans la méchanceté, la pauvreté, l'hypocrisie. Donc, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la chronologie des choses. Et il ne comprend même pas l'ordre des choses. Quand on pose une question comme ça, c'est vrai, c'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'enseignement pour être équipé. Sur cette planète, à cause de ce que Lucifer a fait, Dieu est obligé d'organiser des missions spéciales pour mettre de l'ordre. C'est encore la miséricorde de Dieu qui fait que, il est Lucifer, fait des ordres sur toute une planète, des millénaires à faire. Il le regarde. Il peut le tuer, non? Il le regarde toujours. Il peut l'anéantir et finir avec. Il le regarde toujours. C'est encore la miséricorde de Dieu qui fait qu'il envoie toujours des prophètes qu'il a envoyés. Il envoie. Il dira, bon, ils vont tuer tous les prophètes. Je sais comment. Moi, je pars là-bas. J'envoie mon fils. C'est la miséricorde. Que Dieu ne peut pas faire quoi? Que ramasser toute sa vie, il fait tout un sac et puis on le jette aux enfers. Point. C'est la miséricorde de Dieu qui fait qu'il prend le temps de laisser le bon grain, les livrets grandir ensemble. Donc en fait, les gens parlent de la méchanceté de Dieu parce qu'ils ne connaissent rien à la parole, ils ne connaissent rien à l'histoire de l'humanité, ils ne connaissent pas la chronologie des événements. C'est parce que Dieu est miséricordieux qui n'a pas anéanti Satan. C'est parce qu'il est miséricordieux qui n'a pas anéanti l'espèce humaine. C'est parce qu'il est miséricordieux qui laisse même le mal retirer parce que lui, il a décidé que c'est à la fin qui va mettre fin à tout ça et créer un paradis où il n'y aura plus de méchants. Pourquoi Lucifer en veut aux hommes à ce point? Il a connu le paradis. Il sait ce que c'est que la richesse. Il a connu une abondance sans équivalent. Et c'est ça qui a fait que, à un stade, il dit que, mais comment? Pourquoi c'est moi qui organise les chambres pour louer le jeu? Moi-même, j'ai déjà, non. Qui t'a donné le commandement? C'est Dieu. Tu viens d'en que tu veux le remplacer. Quand il a commencé à faire ça, c'est Michael. Michael n'était pas déjà général à l'époque. C'est Michael qui a acheté le problème. Michael a l'affronté personnellement. Michael était très courageux. On ne devient pas général comme ça, commandant en chef des troupes célestes. Il a le mérite. Comment est-ce que là, c'est très compliqué. Là-bas, c'est très compliqué. C'est que les gens qui parlent ne connaissent pas certains éléments chronologiques. Maintenant, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit. Dieu ne peut pas accorder sa gloire aux autres dans un champ comme celui-ci. Il y a des gens, quand tu veux les traiter, Dieu refuse parce que quand la personne va guérir, il va donner la victoire au diable. Ça va être comptabilisé dans son cas. Comment se fait-il qu'une créature aussi têtue que l'autre là, aussi méchante, aussi vicieuse, qui a développé toute forme de vie inqualifiable, innommable, qu'on veuille que, quand quelque chose est fait par Dieu, que ce soit à lui la victoire? Non, ce n'est pas possible. C'est une question de justice même dans cette affaire. Je vous donne un élément simple pour clôturer. Vous ne pouvez pas avoir un champ de plusieurs hectares. Vous recrutez un employé. Il vient de finir sous le champ. La récolte, vous n'avez plus rien. Il fait ce qu'il veut, il gâte le champ. Le jour où vous dites que ça suffit comme ça, on dit que vous êtes méchant. La terre, c'est le diable qui a créé ça. Le psaume 24, verset 1 à 2 dit que la terre, tout ce qu'elle renferme et tout ce qui y habite, appartient à Dieu. Donc, en fait, cet homme a besoin de délivrance, c'est son premier problème. Son besoin de délivrance, c'est d'abord au niveau de la parole. Il faut qu'il connaisse sa parole. Il a besoin de délivrance, deuxièmement, parce qu'il a envoûté. Il est vraiment envoûté. C'est pourquoi il dit des choses comme ça. Il a besoin de délivrance parce que sa souffrance a fait que même le peu de lumière qui est entré en lui, il a tordu, ça s'est devenu ténèbres. C'est quand on ne marche pas avec Dieu qu'on ne comprend pas. Quand on parle même, lui qui parle, parce que c'est un cas simple. Si Dieu était méchant, il serait plus vivant. Je dis ça. Hein. Si Dieu était méchant, il ne serait plus vivant. Il est écrit toujours dans le psaume 103 que Dieu ne nous juge pas selon nos péchés. Si Dieu jugeait selon nos péchés, on n'aurait pas 7 milliards d'habitants. Je crois qu'on n'en aurait même pas 500 millions. Oui. C'est que sur 7 milliards, on aurait 500 millions de vivants. Le reste, même ça. Oui.
Je veux savoir, Et si on vous dit Lucifer, je viens de se répondre.
Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que, d'abord, Lucifer a un péché qui le tient jusqu'à aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est le premier péché que je n'accepte pas. C'est l'orgueil. Deuxième chose, il a créé tout un royaume et il a pris plaisir à commander. Dans l'injustice, le vol. Il ne peut pas se repentir. Le vol, le mensonge, la destruction et les crimes. Mais il est avancé à un stade où l'option même de se repentir n'existe pas dans son logiciel.
Envoyez une question encore.
Oui, une dernière question.
Voilà, on voit tout à l'heure, vous avez dit, Lucifer a été rejeté sur la terre pour son orgueil. Je voudrais savoir.
Pas exactement, il a voulu la place de Dieu.
Justement, parce qu'il est orgueilleux, il a voulu la place de Dieu.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui nous détermine, nous les hommes? Parce que lui, Lucifer est un ange de Dieu. Alors nous les hommes, je ne sais pas si je fais l'erreur, je crois penser que nous les hommes sommes au-dessus des anges, parce que les anges sont à notre service. Si je me trompe en
fait. Les anges sont à notre service. Oui. Mais pourquoi nous avons. Mais c'est normal, non, c'est vrai, c'est la parole qui le dit.
Bon, donc ça veut dire donc de façon les anges avaient notre libre à vie.
Pardon?
Est-ce que les anges ont un libre à vie?
Les anges ont un avantage que les hommes n'ont pas. Parce qu'il faut bien comprendre, cette question est intéressante. L'homme a quelque chose qui le met en difficulté sur cette planète. Il est dans le corps physique. Le fait que tu sois dans le corps physique, qui est un corps corruptible, crée des conditions spécifiques que toi tu as fait un ange d'enfant. Les anges se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas de sexe. Quand tu vois un ange qui ressemble à une fille, ou que ressemble à un homme, tu dis qu'il, elle, ça c'est ses unions là-bas, il n'a pas de sexe. Maintenant, à partir du fait que nous soyons faits différemment des anges. À partir du fait que nous avons un contrat particulier avec Dieu. À partir du fait que nous avons un mandat que les anges n'ont pas. Parce que Dieu nous crée avec le mandat de partenariat. Les anges ont été fabriqués avec un mandat d'obéissance et de service. Oui. Or, ici, on a un mandat de partenariat et dans ce partenariat, nous devons passer les examens. La vie citée est une école. Dans laquelle on doit passer, je vais le dire de façon plus synthétique. Avant la vie sur terre, il y a une vie. Nous existons avant d'arriver ici. Et quand nous arrivons ici, la terre nous donne une enveloppe physique, ce corps. Et après la vie sur terre, il y a une vie. Donc le passage sur terre nous permet de déterminer si nous allons aller en enfer ou bien au paradis. Les anges n'ont pas ce dilemme. Ceux qui ont suivi Lucifer ont nous. Mais la parole dit, nous allons les juger. Il y aura le tribunal et c'est nous les hommes qui allons juger les anges. Ça n'est écrit nulle part que les anges vont juger les hommes. Et quels anges on va juger? Les anges déchus qui sont visibles dans vos vies. Les autres n'ont pas eu affaire à être encore déchus ou bien à organiser la rébellion. Donc le statut de l'homme est un statut que les anges envient. Et que les autres en vivent. De toute façon, tous les démons spécialisés sont des anges qui sont spécialisés. Les sirènes et tout le reste là, ce sont des anges qui sont spécialisés, qui sont transformés autour de la spécialisation. Nous avons l'avantage d'avoir un élément de contact environnemental, le corps physique, qui nous en dit ça. Parce que nous avons accès au plaisir. Oui. Toute forme de plaisir qu'ils ne peuvent pas connaître. Ils nous en dit ça. Ils nous en dit d'être les fils de Dieu. À ce titre, nous avons des grâces spéciales, comme nous sommes ici. Au lieu d'être juste obéissants et tout ça, ils ont dit que bon, mais on vient voler. Le statut de l'homme est un statut spécial dans la création. L'homme et l'ange sont des catégories différentes. L'homme est le fils du créateur. Il jouit d'un statut royal de par sa nature. Mais il doit passer les examens. Alors que les autres ont un mandat d'obéissance et de service et tout. Si je demande à un ange de rester sous cet arbre pendant 1000 ans, il ne bouge pas. Mais il fait son travail. Lui ne sait pas que j'ai envie de pisser, j'ai envie de manger. Il n'a pas. Il va se tenir là. Si on lui demande de surveiller un rayon de 2 km, il va rester là.
il n'a pas peiné, il ne peut pas tuer, il ne peut pas, il n'a pas volé. L'homme ne peut pas faire certaines choses. Les anges peuvent le faire à cause du programme initial qui est le leur. Nous, nous devons passer les examens. Les anges sont déjà programmés. Ce sont de très grands. Quand je dis souvent certaines choses, ce sont de très grands spécialistes. Ils n'ont rien voulu du clair. Nous, on a la chair qui nous tient. Quand on parle de la chair, nous avons quoi? Nous avons le corps physique que nous avons là. Et non pas le corps physique. Oui, on est sensible à tout ça. Les formes, les couleurs, les mouvements. Nos statuts sont tellement différents qu'il n'y a pas de comparaison à faire. En réalité, avant la vie, il y a une vie. Sur terre, il y a une vie. Après la terre, il y a une vie. Ici, il faut passer les examens dans la marche avec Dieu. Parce que Dieu nous a réservé une place royale dans son royaume, une place de choix. Et même là-bas au paradis, il y a les classifications selon le mérite. Tout le monde va faire la même coupe. Je peux continuer. Bien. Je voulais parler de Genèse 3, le verset 8 à 10, concernant le péché d'Adam et Ève quand ils sont allés se cacher. Moïse a lui aussi connu cet aspect de la crainte de Dieu. Quand il a passé 40 jours et 40 nuits à intercéder en faveur du peuple qui avait péché devant Dieu. Car j'étais effrayé, ce qu'il dit, à la vue de la colère dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Deutéronome 20, le verset, non, Deutéronome 19, 9, le verset 19. Deutéronome 9, le verset 19, notez la référence. De même, dans le Nouveau Testament, réalisant l'immensité de la vengeance et du jugement de Dieu, le cœur de l'Épître aux Hébreux, qui est Paul, dit, c'est une chose terrible. Je vous disais ça. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Autre argument maintenant, pourquoi craindre l'Éternel? Pourquoi craindre l'Éternel? Les raisons pour lesquelles nous devons craindre l'Éternel découlent de la signification même de la crainte de Dieu. 1. Nous devons craindre Dieu à cause de son, de sa grande puissance qu'il a manifestée en créant toutes choses et tous les êtres humains. Pour ceux qui doutent du fait que nous sommes supérieurs aux anges, il y a un prophète qui a essayé de se prosterner devant un ange, et l'ange lui a interdit. Il a dit non, non, non. On est très dans le service, ne fais pas ça. Qui a fait ça? Voilà. Les gens. Non. Je ne suis pas supérieur à toi, on est très dans le service. Nous travaillons tous pour la gloire de Dieu. Donc, vous qui créez, je le dis comme ça, vous créez les hommes parce qu'ils sont musclés. Vous créez les hommes parce qu'ils sont capables de commander de petites choses contre vous, menaçant la chair, menaçant votre argent, vos positions de pouvoir. À plus forte raison, le Créateur. Celui qui a tout, qui est tout, qui a tout créé, et qui est au-delà de tout. Au-delà de la création et de la créature. Donc, le psaume 33, le verset 6 à 9. Psaume 33, le verset 6 à 9. J'aimerais qu'on le lise. Psaume 33, le verset 6 à 9. Qu'on lise aussi le psaume 96, le verset 4 à 5. Et qu'on lise Jonas 1, le verset 9.
Psaume 33, verset 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, ou met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit que la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen.
Amen. Le simple bon sens.
bien-aimé. Tout d'abord, faire à quelqu'un qui est capable de tout faire par la parole, n'est-il pas dangereux? Mais il est extrêmement dangereux. Il vaut mieux pour vous que quand il parle là, que ce soit dans le sens qui est bon. Hein. Parce que s'il parle dans l'autre sens, oula. Donc il peut créer des cataclysmes comme il le dit de parole. Mais vous avez intérêt à comprendre que nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Mais il y a des hommes qui n'ont pas conscience du fait que Dieu peut tuer l'être humain comme vous tuez les mouches et les moustiques. Comme ça, tac. Et nous prenons conscience de ça. Ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux qu'il ne peut pas. Il peut. Il peut se briser comme une brindille de marais, de bambou. Comme ça, tac, c'est fini. Et là, on va venir bavarder, c'est déjà mort. Vous vous rappelez de l'histoire de l'arche de l'Alliance, qui s'est incliné, et un homme a voulu toucher, et non, mais ça s'appelle, bam! Il est mort sur le champ. C'est cet incident qui a fait que David était dégoûté au point d'aller que l'arche ne rentre pas chez lui, que ça reste d'abord. C'est quoi ça? Il a tué comme ça? Ça? Il faut vraiment prendre conscience du danger. Même si ce n'est pas l'élément motivationnel premier que vous devriez avoir. Parce que, d'un point de vue de l'expérience, la petite expérience, la modeste que j'ai dans la marche avec Dieu, je ne pense pas, de mon point de vue, que le côté-là doit être celui qu'on doit d'abord regarder. Qu'on fait les choses qui soient bien pour Dieu, juste parce qu'on a peur qu'il nous tue. C'est très intéressant. C'est de l'activité mentale et spirituelle. On doit faire les choses pour Dieu par amour pour lui. Parce que, maintenant alors je vais vous faire le marketing. Parce qu'on a conscience de ce que plus il est content de nous, plus on gagne. Plus il se glorifie dans notre vie. On gagne. On a la sécurité, on a le bien-être, on a le confort, on a tout. Tous les deux se demandent ça. C'est là. Tu es piégé. Tu n'es jamais chaud. Bon. Je vais pas toucher le portable parce que tu es chargé, monsieur. Oui, mais. C'est l'angle où toi tu vois la chose. Justement, mais regardez dans un pays comme le Cameroun, qui a des lois intimes. Le Cameroun a des lois qui passent de temps à interdire. On ne sait pas ce qu'elles permettent. Mais c'est vrai que les cerveaux sont sclérosés. La loi seulement ne fait qu'interdire. Elle permet quoi? Oui, les scléroses, c'est dans les cerveaux. Quoi? Les cerveaux sont atteints de cancer mental et spirituel. J'ai déjà dit. Vous comprenez ce que je dis? Vraiment, si vous voulez faire les choses par rapport à Dieu, parce que vous avez peur qu'il vous tue, si c'est tout ce que vous avez vu de bon, vraiment, vous n'avez pas compris la crainte de Dieu. Ayez le challenge de faire les choses avec le souhait, l'envie, le besoin, le désir ardent qui soit toujours fier de vous. Là, c'est une bonne motivation. Là, c'est intéressant. Il va te baisser l'onction à des niveaux insoupçonnables. Comme il baisse ça, tu l'envoies.
Amen. C'est une place.
Comment? Une place. Une grâce.
Non, c'est une place. Dans le de l'onction, c'est une place.
Ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que quand je parle, certains se disent que, ah, comme il a dit, comme l'envoyé, son parole nous baisse comme pour lui. La réponse à la question est oui. La réponse à la question est oui. Dieu peut vous donner beaucoup. Énormément. Il n'a pas dit de vouloir la place de l'envoyer. Il a dit de bien occuper votre place. Remplissez-la déjà bien. On voit. Il peut vous faire remplir votre place jusqu'au débordement d'options. Excellez, vous allez exceller au fond, il y a des choses, lui il va te glorifier chez vous, plus qu'il te glorifie, mais c'est l'envoyé. C'est une question à disposition de faire. Sauf que bon, comme j'ai mis la barre haut, il faut quand même suivre. Vous avez un père spirituel, un père dans cette nation, il n'est pas spirituel, parce qu'il ne peut pas être père spirituel. Gabi Wonderful Barthélémy. J'ai suivi. J'ai suivi un morceau de ton discours l'autre jour.
Mais la femme a mis la barre très haut. Et ça veut dire que les hommes sont venus relever les défis.
Si l'envoyé met la barre très haut, ça doit être un élément motivateur. Nous tous ne devons pas servir Dieu de la même façon. Nous tous ne devons pas être dans le plein service à Dieu. C'est-à-dire en étant des évangélistes, tout ça. Mais nous tous, nous pouvons servir Dieu 24 heures sur 24 à travers notre comportement. Il dit que je fais la cuisine au Pelé Makala. Je dois faire le Pelé Makala jusqu'à ce que Dieu me descende et que je vais entrer dans le corps et je veux goûter le bain. Si c'est la chorale que je veux faire, je dois chanter jusqu'à ce que Dieu lui dise que oui. À cause de ça, désormais mes enfants, si quand quelqu'un ouvre la voie, les grâces descendent à cause de ça. Si je dois évangéliser au bureau, si j'évangélise jusqu'à ce que Dieu dise que, il dit à l'envoyé que mon fils, celui qui doit devenir un évangéliste dans les terres, c'est parce que ce n'est pas là, mais il évangélise souvent au bureau, que quand il traumatise ses chefs, quand quelqu'un commence, il casse tout le monde à les arguments, parce que plus personne ne parle, tout le monde devient gentil. Si je suis un mari quelque part, je ne dois pas traumatiser ma femme parce qu'elle dit que non. Tu dois être un bon mari qui applique la parole. Quand tu es une épouse, tu dois être une bonne épouse qui applique la parole. Eux, ils justement, ils disent que, en tout cas, j'ai peur que Dieu me punisse. Ce n'est pas le bon angle. Le bon angle, c'est j'ai besoin que Dieu soit fier de moi. J'ai besoin d'être attaché à la parole pour que Dieu dise que voilà un enfant qui me ressemble. Plus il évolue, plus il ressemble au Christ. Et comme il veut ressembler au Christ, le Christ va s'imposer dans sa vie jusqu'à des niveaux insoupçonnés. Quand je vous donne le secret que dans ce ministère, il y a des dons pour les cœurs qui ne sont même pas répertoriés. Imaginez le sang immense de dons spirituels que le Père éternel peut verser en vous, parce qu'ils sont disponibles dans le ministère. Si vous voulez comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, que votre âme tout entière, que votre esprit, voilà. En anglais, on dit son mari. Redume. Voilà. Redume la crainte de Dieu dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Frère et sœur, je parle en tant que frère pour vous. Quand on aime quelqu'un, elles sont l'humain. Quand on aime quelqu'un, elles sont le Christ. Quand on aime quelqu'un, elles sont le blé. Quand on aime quelqu'un, elles sont le piétine. Quand on aime quelqu'un, elles sont l'insulte. Quand on aime quelqu'un, elles sont le trompe. Si vous réussissez à résumer la crainte de Dieu dans l'amour, vous allez être parfait dans la loi. Parce qu'en l'amour, on est parfait. On vous donne un enseignement pour que vous voyez les segmentations, mais il y a un raccourci efficace. C'est l'amour. Allez lire 1 Corinthiens 13 à 6 de méditation. Pour 1 Corinthiens 13, allez le lire. Parce que quand on donne un enseignement comme ça, il faut pas que les gens le reçoivent de façon intime. Je vous donne le raccourci, je vous donne la dimension opérationnelle, je vous donne la dimension pratique et efficace. C'est celle de l'amour de Dieu. Quand vous aurez compris ça, vous ne serez plus dans les choses que « Oh, j'ai peur !» L'amour fait que... Et vous avez oublié, c'est écrit dans la parole tout ça. Il est écrit dans la parole que l'amour fait que efface certains péchés. Tu n'auras même plus peur, parce qu'à cause du fait que c'est une relation d'amour, tu vas regarder comme ça, il a dit que tu as la chance que je t'aime, tu m'aimes beaucoup. J'ai pas ça. Mais il faut être dedans. Tu peux être dedans. Tu peux être dans la position de l'épouse. La bien-aimée. Au lieu d'être l'enfant de dehors. Vous comprenez? On vous donne l'enseignement, mais vraiment, il faut que l'enseignement ait une dimension opérationnelle. Vous puissiez puiser dedans, vous nourrir dedans, au quotidien. Vous pensez que s'il a envoyé du Dieu créateur passer le temps à vivre en disant que, vraiment, j'ai peur que le Père me bénisse, vraiment. Tu veux que j'enseigne, tu vas enseigner un peu. Hein. Sans chaleur, sans saveur, sans éclat. Parce que bon, il a dit d'enseigner. Pour que Dieu se remplisse en toi, il faut que tu te préoccupes d'entrer en lui.
plus tu vas vers lui, plus tu te remplis à toi, plus tu enlèves ce qui est mauvais en toi, et plus tu te remplis de lui. Je vous ai fait un témoignage ici. En fait, je n'ai pas décodé. Pourquoi une femme dont j'ignore jusqu'au nom, à l'instant où je la rencontre, je lui dis, tu vas accoucher dans 3 jours. Parce que Dieu se remplit suffisamment en moi pour prendre le contrôle de mon corps comme il veut, quand il veut, au moment où il estime opportun, au point où ça dépasse mon conscient. Si tu ne lui donnes pas l'espace, il ne fait pas ça. Si tu ne sens pas que dans ton être, tu es préoccupé de lui plaire, il ne fait pas ça. Il te laisse là-bas te débrouiller sans lui. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand vous arriverez à ce stade, et ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, plus vous investissez dans ma terre Dieu, plus Dieu prend de l'univers en vous. Ça fait que très souvent, certaines de vos actions seront les actions de Dieu. Dans les situations les plus simples, les plus banales, les plus quotidiennes, dans tous les compartiments de vos vies, vous serez souvent en train de parler à quelqu'un, c'est Dieu qui est en train de parler à travers vous. Et pourtant, vous êtes conscient, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens dans ce ministère, et ils n'ont pas compris le processus. Vous savez, quand j'ai parlé ici dimanche dernier, je parlais avec mon cœur. Parce que je me demandais, est-ce qu'ils ne comprennent pas que si le Père est devant, le Père que nous apprenons Jésus-Christ est devant, si moi l'envoyé, je suis le suivant, c'est parce que je fais tout de tout mon être. Il n'y a pas une partie de moi que je laisse derrière. Et si je donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, comment eux ils n'ont pas compris qu'il faut seulement suivre? Comment peut-il y avoir un écart entre vous et moi, alors que je vous ai montré que voilà le Père qui est bon. Vous savez quoi? Le point pour vous enseigner sur beaucoup de thèmes pendant des années, on va regrouper ça en 2 mots. L'amour et la foi. Il ne s'agit pas toujours que de cela. La crainte de Dieu ne prend en densité, en épaisseur, que quand on a compris qu'il s'agit d'amour. Et ce n'est qu'à travers l'amour qu'on peut enseigner. Regardez, vous donnez comme un doigt, vous possédez plus qu'un bras. Pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas? Pouvez-vous mettre ce que vous n'avez pas reçu? Applaudissez pour l'esprit.
Donc,
gardez les références de psaume 33, le verset 6 à 9. Vous gardez aussi psaume 96, le verset 4 à 3. Vous gardez aussi Jonas 1, le verset 9. Vous rappelez le Jonas, non? Voilà. En outre, la grande puissance qu'il continue de manifester sur les éléments de la création et sur tout, sur nous, a de quoi nous inciter à le craindre. Quand on regarde ce qui est écrit dans Exode 20, le verset 18 à 20. Les enfants, quand j'enseigne, je veux le silence. Je ne veux plus d'interférence ici quand j'enseigne. C'est doublement dangereux. 1. Vous n'écoutez pas. 2. Vous courez le risque de mettre le Christ en colère. Il vaut mieux que je vous mette en garde avant que ça se gâte. Vous n'avez pas encore entendu Dieu gronder dans votre poitrine, au fond, vous avez l'impression qu'elle va exploser. Lisez Exode 20, le verset 18 à 20. Exode 20, le verset 18 à 20. Que personne d'autre prévoit, Ecclésiaste 3, le verset 14. Qu'une autre personne prévoit, Jonas 1, le verset 11 à 16.
Exode 20, verset 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne brûlante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous te écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, Vous ne priez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour vous. C'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Amen.
Pourquoi la crainte de Dieu est utile? Dans une lecture comme celle-là, la crainte de Dieu est un élément de sécurité pour le croyant. Parce que si le croyant n'a pas la crainte de Dieu, il risque de pécher. Et s'il pèche, il risque de mourir. Parce que le péché conduit à la mort. Il faut comprendre les choses dans leur mécanicité. Et tant que nous lisons la suite, on a dit Ecclésiaste 3, le verset 14, Jonas 1, le verset 11 à 16.
Ephésiens 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que je fais durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y en reprocher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Amen.
Amen. Dieu veut qu'on le craigne, pas seulement à cause de sa royauté, mais parce qu'il veut toujours que l'homme se préserve. Se préserve de tout ce qui peut l'amener à la mort. Parce que Dieu, ayant établi des lois justes et équitables, ne peut pas s'opposer à sa propre loi. Parce que sa loi fait partie de sa parole. Et sa parole, c'est lui. Donc sa loi, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ça? Si la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que la loi de Dieu qui est faite de sa parole, c'est toujours Dieu. Et Dieu ne peut pas s'opposer à sa propre loi. Il préserve l'homme de façon à ce que l'homme ne se retrouve pas en contradiction par rapport à cette loi. Parce que s'il se trouve en contradiction avec cette loi va le frapper. C'est vrai, quand on va dans les enseignements approfondis, il y a la grâce. Oui, il y a la grâce. Oui, il y a la miséricorde. Mais cette miséricorde, c'est encore partie de la loi. Et il faut connaître les conditions sous lesquelles activer le principe de la miséricorde. Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas que tu es attaché à des péchés hideux aux yeux de Dieu, tu dis que tu veux la miséricorde. Tu vas te regarder en te demandant que c'est quoi, tu t'es perdu. La miséricorde est accordée à ceux qui le craignent et mettent en pratique la parole. C'est-à-dire que c'est quand tu as déjà la crainte et la mise en pratique que tu as droit à la miséricorde. Donc tu peux tomber, mais à condition que tu aies même déjà rempli ça constamment. Là, il regarde, il étudie le dossier en ta faveur. Comme vous dites souvent en français facile, là, ton dossier est défendable. On regarde le cœur, on regarde l'état d'âme, on regarde les larmes, on ne voit personne. Tu apparais, où? Comment? Parce que les gens qui vont en enfer joyeusement et qui sont là en enfer, sont très nombreux à dire ça. Quand tu dis à quelqu'un de se ressaisir dans sa vie, ah, Dieu a miséricordie, non, il a quoi? Comme hier, c'était l'une des meilleures journées d'enfer. À Saint-Valentin. C'est l'un des jours dans l'année où la fornication atteint des niveaux records. Quelle misère! Quelle ignorance! C'est à pleurer. Que les amoureux qui sont dans le bon couloir avec Dieu se souhaitent bonne fête. Mais c'est 99,999% des gens qui sont perdus, qui sont dans la fête Saint-Valentin. Les concernés même ne sont pas dans la fête. Ceux qui sont dans la légalité. Quelle misère. Quelle misère. Donc vraiment, il faut comprendre le sens de la loi et son essence, que les gens ne vous disent pas n'importe quoi. Apprenez à comprendre le sens des choses et l'essence des choses en marche avec Dieu. Quelqu'un m'a demandé à l'année chaîne de un média, que oui, mais pourquoi vous êtes dur comme ça? Nos parents avant, ils n'avaient pas le mariage civil, tout ça. Mais nos parents avant étaient mariés légalement. Vous racontez quoi? La dot se faisait. S'il était marié à 16 ans, que son mari était à 18 ans ou 20 ans. Parce que, de toute façon, le diable n'avait pas encore atteint ce niveau de l'état où il crée la misère, il crée la crise de manière que les gars ne peuvent pas se marier. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier majoritairement? Ils n'ont pas de ressources pour s'en sortir. À cause de ça, Il commence à se débrouiller, à s'embrouiller. Là où avant, un enfant à 20 ans arrive à son patrimoine tranquillement au village, il a son champ, il a comment, il a quoi? Il peut se marier, il est autonome. Le diable a augmenté l'injustice, a créé la misère, a augmenté les pauvres. Mais le temps passe. Les démangeaisons dues à l'âge évoluent. Et il faut assumer tout ça. Oh, la loi, et c'est toujours le même diable qui fait ça. La loi oblige à respecter certains critères. Mais quand il voit que ça ne suffit pas, il excite les femmes à faire à mettre tout dehors pour que les gars se réveillent en disant que on me mêle. Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que quoi? Si les femmes s'habillaient mieux, on aurait moins de problèmes. Mais comme le diable sait comment l'homme est constitué, il dit que mais, non seulement j'ai rendu le gars misérable, mais il faut que j'excite sa libido. Comme ça, je vais venir me servir un peu plus vite. Partout, tu vois les choses s'agiter. C'est ce qui devait être bien couvert, emballé à distance de sécurité. C'est tout serré de tous les côtés. Mais quand même, c'est un problème. Donc, quand on dit que non, le problème de nos parents, les parents sont nombreux à avoir eu la grâce qu'à 20 ans, il était déjà un adulte social. Mais il pouvait construire sa maison. Elles ont de la terre, elles ont construit déjà la maison. Il construit sa île propre là. Il a son mouton que papa a donné. Il a la parcelle de champ. Il travaille. Il peut gérer une femme et avoir des enfants. Le diable a créé le désordre. A créé l'injustice. A fait grandir le désordre. A fait grandir l'injustice. Et il a donc amené les gens vers l'abattoir. Les gens viennent me comparer les univers qui ne sont pas comparables. C'est ça le process. Et la seule façon de s'en sortir des griffes comme ça, du diable, c'est d'être avec Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ organise vite les choses et tu prends le bon couloir vite. Et même les mauvaises choses disent que le passé est passé. Ça va. Repentance, conversion, c'est bon. Allons maintenant ensemble, sois propre. Vous voyez alors, quand on vous pose ça les questions, mais... Donc, il faut comprendre l'esprit de la parole. Lorsque nous prenons conscience de la sainteté de Dieu et de la sainteté de notre Dieu, parce qu'il faut se l'approprier, c'est-à-dire du fait qu'il se tient à l'écart du péché et qu'il s'y oppose, notre réflexe naturel est de craindre ainsi Dieu. Je vais vous donner plusieurs passages. Parce qu'il y a Exode 20, le verset 18 à 20. À ce chapitre, je ne vais pas rester là. Exode 20, le verset 18 à 20. Ecclésiaste 3, le verset 14. Jonas 1, le verset 11 à 16. Marc 4, le verset 39 à 41. Je reprends. Exode 20, verset 18 à 20. Ecclésiaste 3, le verset 14. Jonas 1, le verset 11 à 16. Marc 4, le verset 39 à 41. Vous avez Apocalypse 15, le verset 4. Autre chose, tous ceux qui ont vu la splendeur de la gloire de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Lisez Matthieu 17, le verset 1 à 8. Tous ceux qui ont vu la splendeur de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Matthieu 17, le verset 1 à 8.
Matthieu 17, verset 1 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix qui entend de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen.
Amen. quand tu vois la gloire de Dieu, tu ne peux être que saisi de peur. Quand ils ont regardé Jésus-Christ dans sa vraie dimension, ils ont vu Dieu, le lumineux, l'éclatant, l'indescriptible. Ils ont compris que là, il y a cette phase de transfiguration qui montre la vraie nature divine de Jésus-Christ. Le temps d'un instant, ils ont compris qu'il y a un pas. Ils ont compris. Et ils ont eu la crainte de Dieu à cause de cela. Les bénédictions incessantes de Dieu qu'il nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés, sont des éléments qui doivent nous amener à craindre, à le craindre et à l'aimer. Quand on lit l'esprit de 1 Samuel 12, verset 24, on en a la confirmation. Ainsi que le psaume 34, le verset 10. 1 Samuel 12, 24, psaume 34, le verset 10. Ainsi que Jérémie 5, le verset 24. Dernier point, il est certain que rien que le fait de savoir que Dieu est un Dieu de justice qui jugera l'humanité tout entière pousse l'homme à le craindre. C'est une sainteté et une solennité qui est une vérité qui s'impose à l'humanité. Dieu observe et évalue constamment nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Et il nous en tient responsables aujourd'hui, comme il le fera au jour du jugement dernier. On va lire ce passage en étant debout. Deutéronome 17, verset 12 à 13. Vous les prenez. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Ésaïe 59, verset 18 à 19. Malachie 3, verset 5. Et Hébreux 10, verset 26 à 31. Je reprends. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Ésaïe 59, le verset 18 à 19, Malachie 3, le verset 5, et Hébreux 10, le verset 26 à 31. Je dis tout le monde debout. À quel point?
Deutéronome 17, du verset 12 à 13. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placez-le pour servir l'Éternel, son Dieu, ou qu'il n'équipera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Amen.
Amen.
Ésaïe 59, verset 18 à 19. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le vent de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le fil de l'Éternel le mettra en fuite. Amen.
Amen. Malachie 3, verset 5.
Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Amen.
Amen. Vous voyez jusqu'à quel point les orphelins, les veuves sont protégés par Dieu, par la parole. Il faut avoir conscience de cela. Il faut lire ces passages et faire très attention. N'allez pas vous ramasser des malédictions en ayant un mauvais traitement à l'endroit des orphelins ou des veuves ou des étrangers. La parole est claire, ça n'a pas changé. L'autre passage, c'est lequel?
Hébreux 10, verset 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance?
par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen.
Cet attaquage ne sort plus jamais de vos esprits, maintenant que vous les avez identifiés. Ils ne sortent jamais de vos esprits parce qu'ils vont vous servir de méditation. Je demande à l'Esprit Saint de faire descendre une mention spéciale en ce lieu, afin que cet enseignement soit scellé dans nos cœurs à tous, qu'il soit vivant pour chacun d'entre nous, au niveau de nos âmes et de nos esprits. Je demande à l'Esprit Saint de bénir chaque personne qui a pris sur elle de venir ici aujourd'hui, elle et sa famille, de bénir vos affaires, de bénir ainsi vos activités, de vous trouver des solutions pour chaque problème que vous avez dans votre intimité, sur le plan familial, social, conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans vos vies.